CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous dans ce MAG. Aujourd'hui, on vous proposera une conférence pour ce samedi à Caussade autour des femmes et de l'astrophysique. Astronome, astrodame, une conférence organisée par l'Université populaire de Caussade. On vous dira tout dans ce MAG, mais tout de suite, et vous le savez, comme tous les mardis, c'est la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques du QRGA. C'est donc l'occasion de vous inviter ce samedi à Saint-Antonin, à la médiathèque Amélie Gallup, à un spectacle de contes inuits. C'est un spectacle à voir à partir de 5 ans, sur inscription obligatoire. Ce sera aux origines du monde avec Léoma Raïevski, samedi à 17h à la médiathèque de Saint-Antonin, qui d'ailleurs accueillera la grande expo des 6-16 ans. Venez proposer vos créations pour Graines d'artistes, un thème libre, pas de contraintes. Vous avez jusqu'au 9 mai pour déposer vos œuvres qui seront exposées pendant 15 jours. Sinon, à la médiathèque de Caylus, c'est concours d'écriture. Laissez-vous inspirer par des photos cette année. Allez donc les voir sur les réseaux sociaux ou bien en toquant à la médiathèque de Caylus. On retrouve tout de suite, enfin, Victor Le Guénec pour la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques.
Et bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Aujourd'hui, on cause dystopie, animaux, réponses et absurdes. En débutant par une série de BD, Le Château des Animaux, scénarisé par Xavier Dorisson, un des plus talentueux scénaristes actuels qui nous avait déjà régalé avec Undertaker ou Long John Silver, et qui s'attaque aujourd'hui à la fable animalière. Explicitement inspiré de La Ferme des Animaux d'Orwell, on explore un autre sillon. Un décor simple, un château abandonné par les humains et érigé en république où règne un taureau. Car, oui, cette république n'en a que le nom. C'est une véritable tyrannie taurine aidée par une milice de chiens et où les autres bestiaux ne peuvent que courber l'échine. Décor simple, certes, mais là où on pourrait s'attendre à une confrontation directe entre le peuple et le gouvernement, Dorisson explore la résistance pacifique. Et rapidement, ce sont les travers du pouvoir qui se révèlent, le taureau ayant hélas découvert les plaisirs de l'alcool quand une bonne partie de la ferme se tuait la tâche pour construire une tour promise par le président à sa favorite. Une fable politique donc, parfois un peu bavarde, mais qui prend le temps de poser son discours et son sujet. C'est dense, car tout le monde a un rôle précis à jouer dans l'histoire. Des personnages attachants ou bien que l'on aime détester. La BD parle de tout le monde, maltraitance des victimes et dissension du pouvoir. De plus, le dessin de Félix Delep est absolument remarquable. Les couvertures attirent l'œil au premier regard et l'intérieur nous happe avec une puissance extraordinaire. Les traits sont magnifiques, les animaux proprement splendides et la construction de la composition est maîtrisée, riche et inventive. Un ensemble qui rend l'œuvre véritablement percutante. Une série en 4 tomes, un chemin long et délicat vers la liberté dont 3 sont déjà en rayon dans les médiathèques du QRGA. Tout de suite, on enchaîne avec une autre série de romans, celle-là, et de science-fiction. Le guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams. Un ami des Monty Python dont on retrouve l'humour dans cet ouvrage, c'est proprement délirant, absurde, limite abstrait, très anglais et très riche. Ça part dans tous les sens avec une inventivité captivante. Le format radiophonique original de l'œuvre amène une construction en chapitres pleine de rebondissements et de deus ex machina. Tout est en permanence remis en question. La physique, la philosophie, avec des inventions plus burlesques les unes que les autres, mais je vais trop vite. Laissez-moi vous planter le décor. Arthur Dent passe une matinée particulièrement détestable, allongé dans la boue du jardin de sa maison, en peignoir. Il tente d'empêcher la démolition de sa baraque, qui doit laisser la place à une nouvelle déviation autoroutière. De plus, pour ajouter à son stress, son vieux pote Ford Prefect annonce à Arthur qu'il est un alien coincé sur Terre depuis 15 ans et que la Terre va être détruite pour faire place à une nouvelle déviation hyperspatiale et qu'il faut foutre le camp le plus vite possible. Nos deux amis partent donc en stop hypergalactique. De ce point de départ déjà bien déjanté commence une aventure spatiale complètement absurde. On y croise des robots dépressifs, des aliens poètes, des souris manipulatrices, des pistolets à émotions et des propulseurs intergalactiques à générateurs d'improbabilité. Et si vous arrivez à vous accrocher, vous découvrirez la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. C'est drôle tout le long, ça nous déconnecte tranquillement d'une réalité franchement terne par rapport aux péripéties de nos héros. Bref, ça se dévore gaillardement avec une bonne tasse de thé. Anglais, bien évidemment. Le Château des Animaux de Xavier Dorisson et Félix Delep et le guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams sont à retrouver sur le réseau des médiathèques du QRGA. Avant de vous quitter, je vous rappelle que la médiathèque de Caylus organise un concours d'écriture et si vous souhaitez participer, toutes les informations sont sur les sites des médiathèques du QRGA. Bonne lecture et à bientôt.
Merci Victor. Victor Le Guenec de la médiathèque de Caylus pour la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques que vous pouvez retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr. Allez, musique dans ce mag, Claudio Capéo tout de suite. Et après, on vous emmène du côté de Caussade pour une conférence ce samedi, conférence de l'Université populaire autour des femmes et de l'astrophysique.
Quand j'aurai fait le tour du monde, qu'est-ce qu'il me restera ? Je sais pas vraiment qui je suis, ce que je veux, à quel point les gens me mentent. Si je choisis mes vêtements un peu mieux, je sais pas vraiment si je suis jeune ou trop vieux, à quel point mes proches me manquent. Si la tristesse rend les gens plus curieux, quand j'aurai fait le tour. Qu'est-ce qu'il me restera si ce monde éphémère s'effondre? Qu'est-ce qu'il me restera quand j'aurai fait le tour du monde? Qu'est-ce qu'il me restera quand j'aurai perdu ces milliers de secondes? Qu'est-ce qu'il me restera?
Je sais pas vraiment si je suis sage ou trop fou, si j'ai toujours les mêmes rêves, à quel point il faut que j'abrège mes rendez-vous. Je sais plus vraiment si je sais rien ou je sais tout, si je parle toujours des mêmes thèmes, à quel point quand je dis je t'aime, je surjoue.
Comme j'aurais fait le tour du monde, qu'est-ce qu'il me restera si ce monde éphémère s'effondre? Qu'est-ce qu'il me restera quand j'aurai fait le tour?
CFM Caylus, le mag.
De retour dans ce mag, on vous propose de faire le détour par Caussade pour ce samedi dans le cadre du cycle de conférences de l'Université populaire. Prochain rendez-vous au Récollet, samedi donc à 16h30 autour des astronomes et plus particulièrement astronomes astrodames. C'est le titre de cette conférence qui sera proposée par Jean Ripert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de physique, vous êtes membre de la Société d'astronomie française, membre fondateur de Carrefour des sciences et des arts autour de l'astronomie et plus particulièrement de la place des femmes astronomes tout au long des siècles.
Oui.
Pourquoi cette thématique ?
Cette thématique, pourquoi pas finalement ? Parce que finalement, les dames, on n'en parle pas beaucoup en astronomie. Et donc, c'est vrai que c'est bien de les sortir un petit peu, les mettre à la lumière.
Alors, si on pense aux hommes astronomes, on connaît tous la pomme de Newton, le fou Galilée,
oui,
ou le fameux Einstein. Par contre, si c'était des femmes astronomes, là, j'avoue, j'en suis complètement incapable.
Eh bien oui, tout à fait. C'est tout à fait le but de la conférence. C'est justement de faire sortir un petit peu certains noms comme ceci. Et c'est vrai que dans la population, quand on demande de citer même des scientifiques femmes, eh bien, les gens ont du mal. C'est tout à fait normal, puisqu'on n'en parle pas.
Mais il y en avait il y en a ?
Eh bien oui, il y en a eu, il y en a eu dès l'Antiquité. Hein. Donc, par exemple, Hypatie d'Alexandrie vivait au 4e siècle de notre ère, et donc elle a fait des travaux sur l'astronomie. Elle a eu une fin tragique, mais ça ne fait rien. Puis il y en a eu d'autres, ensuite, surtout au 16e siècle, 17e siècle en particulier. Et puis plus tard, encore, des femmes qui ont mis en évidence de nouveaux problèmes et qui ont résolu, qui ont fait avancer la science, genre à grands pas.
Alors déjà, des hommes astronomes, si je pense au Moyen-Âge ou même à la Renaissance, hein, c'était quand même se mettre en danger que d'étudier les astres, hein, surtout sous le prisme de la science. Alors déjà que les hommes n'avaient pas beaucoup des crédits, les femmes, j'imagine que c'était même pas la peine.
Et pourquoi se mettre en danger?
Parce que c'était pas Dieu qui contrôlait tout.
Ah ben ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Mais certains l'ont fait, l'ont écrit, hein, ne serait-ce que Galilée ou encore Copernic. Copernic a mis du temps à proposer le système héliocentrique, mais c'est surtout parce qu'il voulait être vraiment très précis et puis il ne connaissait pas tout à l'époque et il semblait que son système ne marche pas et puis finalement ça a été publié à sa mort.
Mais il n'y a pas eu des grands procès autour de ces découvertes, justement de l'héliocentrisme en particulier?
Oui, il y a eu des procès, par exemple, mais bien souvent, on m'en rajoute. Hein. C'est-à-dire que moi, pendant très longtemps, on m'a raconté que, par exemple, je vais prendre l'exemple de Giordano Bruno. Giordano Bruno qui a été brûlé, et on dit que l'Église a brûlé Giordano Bruno. Bon, moi, je n'ai rien contre, hein. Mais j'ai rencontré un conférencier une fois qui dit une phrase en passant comme ça, Giordano Bruno a été brûlé, mais ce n'est pas tout à fait vrai pour ça. Bon, je suis allé le voir en lui demandant pourquoi. Et en fait, il m'a dit, j'ai lu les minutes de son procès. Voilà. Et donc, j'ai acheté le livre, j'ai lu les minutes de son procès, c'est pas facile à lire. Et finalement, il n'a pas été condamné que pour ça. Il y avait d'autres arguments qui étaient beaucoup plus graves pour l'Église que simplement le fait de dire qu'il existait d'autres mondes. Donc, vous voyez, ça dépend de la façon dont sont présentées les choses parfois.
Des arguments tels que quoi ?
Tel que quoi, bien, c'est-à-dire qu'il ne pensait pas d'ailleurs à la transsubstantiation, c'est-à-dire la transformation du pain et du vin en corps du Christ, il n'y croyait pas. Voilà, par exemple, il faisait aussi des tours de magie, il critiquait ouvertement le pape, etc. Si vous voulez, il y avait beaucoup plus d'arguments que simplement le fait de dire qu'il existe plusieurs mondes. Alors après, suivant les idéologies que l'on a, vous voyez, on peut faire passer un message ou un autre.
Vous nous proposez de rencontrer en particulier les femmes astronomes, là, oui, tout au long des siècles de cette conférence. Alors des femmes qu'on connaît déjà initialement pas beaucoup, femmes scientifiques, femmes astronomes encore moins. Alors peut-être, oui, peu de définition. Alors l'astronomie, l'étude des astres, hein, tout simplement.
L'astronomie, l'étude des astres, oui, et surtout des mouvements des astres, essayer de comprendre les mouvements. Et ensuite, un peu plus tard, c'est-à-dire plutôt au 18e, 19e siècle, on est passé à l'astrophysique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le mouvement des astres, c'est essayer de comprendre de quoi ils sont constitués, sont constituées les étoiles. Et comprendre, par exemple, les galaxies, de quel moment ces galaxies se sont formées, etc. Et qu'est-ce qu'elles contiennent, vous voyez, quels sont leurs mouvements, etc. Donc, ce n'est pas simplement, après, uniquement les astres, comme par exemple le mouvement des planètes autour du Soleil ou de la Lune autour de la Terre, etc. Ça a été ensuite des phénomènes physiques beaucoup plus importants. C'est-à-dire déterminer, par exemple, comment déterminer la température d'une étoile. Comment connaître les éléments qui sont présents dans une étoile? Comment connaître la distance d'une galaxie? Vous voyez, ce sont des phénomènes, des problèmes plutôt physiques que simplement sur de l'astronomie.
Finalement, cette conférence autour de la place des femmes dans les sciences et donc dans l'astronomie en particulier, c'est aussi un prétexte pour parler de quelques notions fondamentales de cette science?
Oui, mais pas seulement. Je ne voudrais pas non plus noyer dans de la physique. Ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est surtout présenter surtout les travaux de cette dame et montrer qu'elles ont fait évoluer la science avec leurs travaux. C'est surtout ça.
Depuis combien de temps est-ce que vous avez pu remonter l'histoire et trouver la présence de ces femmes astronomes?
Alors, je ne me suis pas basé, si vous voulez, sur je ne vais pas aller chercher ce qui s'est passé en Inde ou en Chine. Voilà, je suis resté un petit peu dans le bassin méditerranéen. Mais on peut remonter jusqu'au 23e siècle, avant Jésus-Christ.
Wow.
Et on peut rentrer une personne. Mais vous voyez là aussi, c'est une personne dont on connaît très peu de choses. Mais après, eh bien, on raconte qu'elle a observé, je ne sais pas quoi, des planètes, etc. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Tout à l'heure, je vous ai cité aussi Hypatie d'Alexandrie. Hypatie d'Alexandrie, certains maintenant lui font dire qu'elle a émis l'hypothèse du système héliocentrique. Alors qu'aucun écrit ne le dit, mais vraiment aucun écrit. Et ceci vient aussi d'un film qui avait été créé, qui avait été fait il y a quelques années.
Vous avez trouvé vos informations où ?
Ah ben un peu partout, vous savez, c'est parce qu'il manque les informations. Alors il faut être prudent dans les informations, il faut les croiser, parce que sinon, évidemment, vous risquez d'avoir des surprises. Donc c'est vrai que c'est un travail de recherche assez long, parce qu'il faut vraiment croiser les informations et pas dire n'importe quoi.
On va continuer à parler de cette conférence qui nous est proposée donc pour ce samedi dans le cadre du cycle de l'Université Populaire que vous allez donner. On se retrouve juste après la musique pour poursuivre ce mag.
À la place, je ne prie pas de photos d'elle sur ses seins soutenus dans la glace. Brillait une eau éparpillée. Je ne prie pas de photos d'elle. Ça ne fait rien de ses yeux de moire, le gris lumineux. Je m'en souviens, Anna, Anna. Anna, quand tu ne seras vraiment plus là, parti depuis longtemps, je penserai à toi, maman. Je serai la rouille se souvenant de l'eau. Je serai la rouille se souvenant de l'eau. Anna, un instant sur la place où je buvais ce vin amer, tous les soirs en attendant qu'elle passe. Au sein, ne te fais pas prier, je ne vis pas le front de mer, mais ça ne fait rien. Dans ces yeux de moire où je me suis noyé, tout l'océan tient. Anna, Anna. Tu dois, dont je ne sais que l'humeur et le timbre, Anna. Quand tu ne seras vraiment plus là, parti depuis longtemps, je penserai à toi, maman. Je serai la rouille se souvenant de l'eau. Je serai la rouille se souvenant de l'eau. Tu ne seras vraiment plus là, parti depuis longtemps. Je penserai à toi, amèrement. Je serai la rouille se souvenant de l'eau. Je serai la rouille se souvenant de l'eau. Thank you.
CFM Caylus, le mag.
De retour dans ce mag, astronome, astrodame, c'est le titre de la prochaine conférence de l'Université Populaire de Caussène qui se tiendra ce samedi au Récollet, comme toutes les conférences. Elles sont gratuites, elle se tiendra à 16h30 et sera proposée par Jean Ripert qui est au bout du fil de mon téléphone. Professeur de physique à la retraite, membre de la Société d'astronomie française et membre fondateur de Carrefour des sciences et des arts. C'est quoi la Société d'astronomie française, hein? Qu'est-ce que vous y faites ?
Alors, moi, je ne fais pas grand-chose à la Société d'astronomie française. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Sur les cadrans solaires. Mais c'est une société qui a été créée par Camille Saint-Marion, et donc qui a fêté cette année ses 200 ans. Donc, vous voyez, c'est une société qui date depuis fort longtemps. Je suis beaucoup moins actif que dans d'autres associations, comme par exemple CLEA, je crois qu'on n'a pas cité, qui est le comité de liaison enseignants astronomes, qui regroupe des astrophysiciens et des enseignants et qui propose des formations pour les enseignants, justement.
Comment est-ce que vous avez construit cette conférence-là pour ce samedi ?
Je l'ai construite surtout à partir, disons, plus ou moins de manière chronologique, pour ne pas trop se perdre, mais aussi en mettant l'appui, en s'appuyant sur des notions d'astrophysique. Comment sait-on la composition d'une étoile, par exemple ? Jamais personne. Même Auguste Comte, dans son cours de philosophie positif, disait qu'on ne connaîtra jamais, au milieu du 19e siècle, il disait qu'on ne connaîtra jamais la composition du Soleil. Et quelques années après, on avait les moyens de le connaître. Vous voyez, donc, il faut être prudent. Et ce sont sur des moyens physiques. C'est-à-dire, c'est à partir de la lumière que l'on reçoit des astres, que l'on peut déterminer la composition de ces... Je ferai d'ailleurs une petite manip, je le proposerai à toutes les personnes présentes, de voir justement, de faire une décomposition de la lumière et de voir quels sont les éléments que l'on peut en tirer.
Et c'est vraiment l'invisibilisation des femmes scientifiques à travers les âges qui vous a donné envie de les mettre en valeur pour votre conférence ?
Oui, et puis aussi c'est un peu, disons, dans l'air du temps. Si vous voulez, puisque ça s'est passé aussi à l'Académie française, à l'Académie des sciences, cette année, où il y a eu 10 femmes qui ont été nommées membres de l'Académie des sciences, ce qui est, je crois, la première fois dans l'histoire. Et depuis aussi, c'est la deuxième fois, je crois, dans l'histoire de France, que c'est une femme qui est présidente de l'Académie des sciences. Et qui est en plus astrophysicienne, alors vous voyez, c'est pour ça que j'en parle.
Alors, vous allez nous présenter combien de portraits, là ?
Oh, c'est un... Je ne sais pas, mais peut-être une bonne dizaine, une douzaine, je ne sais plus. Voilà.
Depuis donc des siècles avant...
Oui, mais au début, ça passe rapidement, parce que il y a peu de choses, disons. Mais ensuite, j'en présenterai au moins deux ou trois du XVIIe siècle, puis après, on passera à des trucs plus modernes.
Des trucs plus modernes.
Ah ouais, oui, parce que les notions ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'au départ, c'était simplement de l'astronomie où on essayait de positionner les astres, essayer de comprendre les mouvements, c'était uniquement ça. Et ensuite, on passe plus à de l'astrophysique.
Et peut-être des outils qui en découlent, je pense au sextant, aux boussoles.
Je présenterai, oui, j'amènerai des objets comme ça, une sphère armillaire. Pour montrer ce qu'ils sont, ces objets qui ont été construits d'ailleurs depuis très longtemps, hein, ça fait plus de 2000 ans.
Astronome.
Ils sont peu connus.
Astrodame, donc, pour ce samedi. Jean-Ripert, je vais vous laisser le mot de la
un
fin.
Joli nom.
Pardon ?
Un joli titre.
Oui, c'est vous qui l'avez trouvé ?
Pas du tout. C'est au clair, ça a été trouvé par des gamines. Je garde le secret jusqu'à samedi.
Bon, ce sera ça le mot de la fin alors.
Bien, merci.
Merci à vous, Jean-Ripert, ancien professeur de physique, membre de la Société d'astronomie française et membre fondateur de Carrefour des sciences et des arts, qui allait donc nous présenter cette conférence gratuite initiée par l'Université populaire de Caussane dans le cadre de son cycle de conférences. On peut retrouver plein d'infos sur le site www.up-caussade.fr. Et là, c'est donc ce samedi à 16h30 au Récollet que vous nous proposez ce rendez-vous. Jean-Ripert, merci beaucoup.
Au revoir, merci.
Et merci aussi à vous, à tous, à chacun de nous avoir suivis tout au long d'un mag qui sera comme d'habitude, rediffusé à 18h et à 21h. Vous pourrez aussi, comme de coutume, le réentendre en podcast sur le site cfmradio.fr. Profitez-en pour flâner toutes nos émissions. Ils sont mises en ligne. Restez pour la suite depuis CFM Montauban. Ce sera juste après les infos.